Okay. Merci. Alors, bienvenue à notre deuxième panel qui portera sur les thèmes de gouvernance, démocratie et citoyenneté montréalaise qui sont évidemment d'actualité dans notre métropole. My name is Hoi Kong. Like my colleague Daniel Weinsack, I am also a professor at the Faculty of Law and also not a professor at the University of Montreal. So I think we'll follow the same format as the last presentation, 35 minutes per presentation. There are actually three panelists. Raphael Fischler said he's going to be late because he has meetings. He'll arrive in time, he says. He says it's because of meetings. I think it's simply because he's messing with me. Okay, we'll start with Eric Bélanger. Eric Bélanger est professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université McGill. Ses intérêts de recherche portent sur les partis politiques, l'opinion publique, les comportements électoraux, de même que la politique canadienne et québécoise. Eric.
Merci beaucoup. Vous m'entendez bien?
Oui.
Alors ça, c'est une recherche que j'ai entreprise avec mon étudiante de maîtrise, Eva Falk-Peterson. Eva ne pouvait pas être ici cet après-midi. Elle s'en excuse. Elle était retenue à l'extérieur. Alors, avant la pause, on parlait, certains ont pu trouver qu'on s'attardait beaucoup aux questions de structure et de décision politique. Qu'en est-il de l'opinion des citoyens? Qu'en est-il de l'opinion des individus? C'est un petit peu ce à quoi notre recherche essaie de répondre. À tout le moins sous l'angle des opinions politiques et des comportements politiques. Alors, ce que Eva et moi, on a essayé de regarder à partir des données d'un sondage, d'une enquête d'opinion récente, on a essayé de voir si les Montréalais se distinguent des autres Québécois. Et évidemment, si vous avez lu la presse ce matin, vous connaissez déjà les punchs de ma présentation. Mais je vais quand même les résumer ici pour vous cet après-midi. Ce qu'on a décidé de faire de manière un peu plus large, de manière un peu plus approfondie, c'est comparer les Montréalais aux autres Québécois. Mais nous avons aussi voulu distinguer les Montréalais versus ceux qui habitent une banlieue type. Alors, dans les limites que nous imposaient nos données, nous avons identifié Laval comme étant une banlieue type à laquelle on pourrait comparer les opinions des Montréalais. Et nous avons aussi voulu comparer les opinions des Montréalais à celles des gens qui habitent la ville de Québec, la capitale nationale. Et évidemment, il y a une quatrième catégorie d'individus dans le sondage, c'est ceux qui n'habitent aucune de ces trois régions-là. Alors essentiellement, on compare quatre régions dans notre étude. Et nous nous intéressons à trois dimensions de l'opinion. La première, ce sont des attitudes politiques générales. La deuxième, c'est au niveau des comportements politiques, mais cette fois-ci de nature conventionnelle. Et la troisième partie, le troisième indicateur que nous regardons, ce sont des comportements politiques dits non conventionnels. Alors, j'expliquerai ça un peu plus en détail tout au long de ma présentation. Mais comme vous voyez, on peut résumer ça comme étant une étude en trois actes. Alors, je vais débuter, avant de débuter avec le premier acte, présenter brièvement les données de l'enquête. Il s'agit d'un sondage d'opinion réalisé par Léger Marketing sous ma direction, ainsi que celle de trois de mes collègues, il y a environ un an de ça, donc en septembre 2012, tout de suite après l'élection provinciale de l'année dernière. Nous avons interrogé un peu plus de 1500 répondants partout dans le Québec. Ce que je vais vous présenter cet après-midi, ce sont des données descriptives avec un bref résumé des résultats d'analyse un peu plus poussés, un peu plus sophistiqués statistiquement, qu'on appelle l'analyse multivariée. Mais je n'insisterai pas trop là-dessus, je vais surtout présenter des données descriptives. Mais l'idée des données plus sophistiquées, c'est d'essayer de voir si le clivage régional demeure une fois que l'on tient compte de l'âge, du sexe, le niveau d'éducation, de revenus, la langue maternelle des répondants. Alors, au-delà de tous ces autres clivages sociodémographiques-là, est-ce que le clivage régional demeure. Est-ce que Montréal demeure distinct? C'est un petit peu ce qu'on regarde dans les analyses dites multivariées. Et dernière chose que je noterai à propos de ce sondage-là, c'est, je l'ai dit, il a été fait il y a environ un an. Ce qui est intéressant pour nous présentement, parce qu'on est collé sur l'actualité avec le débat en particulier sur la Charte des valeurs, par exemple, mais ce sont des données ici que je vais vous présenter qui ont été colligées plutôt à froid de ce point de vue-là. Alors, c'est l'opinion des Montréalais il y a un an par rapport aux autres Québécois. Alors, ce sont des opinions, notamment sur la question de l'immigration, qui ne sont pas teintées par le débat actuel. Ça peut être intéressant à regarder et à mettre en perspective avec le débat que nous avons actuellement au Québec. Alors, le premier acte de l'étude, j'ai dit, nous regardons les attitudes politiques générales. On peut s'intéresser à la position politique gauche-droite des individus, ainsi qu'à leurs orientations post-matérialistes au sens de Engelhardt, les travaux de Engelhardt. Et l'attente théorique ici, ce serait que les individus qui habitent la ville partageraient des opinions politiques davantage de gauche et seraient davantage à tendance post-matérialiste et à favoriser des objectifs comme, par exemple, la liberté d'expression. Ça, c'est, ce sont des attentes théoriques qui ont trouvé un certain soutien dans la littérature jusqu'ici. De manière plus générale, il y a des thèses classiques qui remontent jusqu'aux années 1930, où on avance que l'urbanité est associée, comme je l'indique ici, à une perte des valeurs traditionnelles. Et donc, ce qui peut favoriser la création, la formation d'attitudes qui seraient plus orientées à gauche ou moins traditionnelles, etc. Il y a finalement dans la littérature la thèse du contact, c'est-à-dire le contact avec l'étranger, le contact avec d'autres cultures, d'autres religions, d'autres langues, qui fait en sorte qu'on peut devenir plus tolérant. Et à ce niveau-là, évidemment, les études ont conclu que les gens habitant en ville ont davantage contact avec la diversité et donc ça génère une attitude plus ouverte à la diversité. Alors, c'était là, ici, nos attitudes théoriques générales quand on a commencé à regarder les données de notre enquête. Qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats de notre sondage? Alors ici, comme je disais tout à l'heure, on compare quatre régions à l'intérieur du Québec. Et ici, c'est l'auto-placement sur une échelle de gauche-droite. Est-ce que les gens se situent plus à gauche, plus à droite, échelle de 0 à 10? Et on peut voir ici qu'il n'y a pratiquement pas de différence au Québec. Les Montréalais, peut-être très légèrement plus à gauche que d'autres Québécois, mais dans les analyses multivariées, ce n'est pas significatif. Alors, essentiellement, les Québécois, dans l'ensemble, ont une tendance, en moyenne, à se positionner au centre de l'échelle. Et il n'y a pratiquement pas de variation régionale à ce niveau-là dans nos données d'il y a un an. Qu'en est-il au niveau du conservatisme moral? Alors ici, on a posé trois questions. Est-ce que vous êtes en faveur de la peine de mort? Est-ce que vous êtes en faveur du mariage gay? Est-ce que vous êtes en faveur de l'avortement? Des indicateurs usuels d'attitude de type conservatisme moral. Nous avons mis ces réponses-là ensemble pour écrire une échelle de conservatisme. Et ici, Montréal se distingue très clairement des autres régions. Alors, les Montréalais sont moins de tendance moins conservatrice au niveau moral, c'est très clair. Par exemple, 55% des Montréalais dans le sondage ont choisi la position progressiste sur les trois enjeux que je viens de mentionner, alors qu'il n'y a seulement que 40% à l'extérieur de Montréal pour qui c'est le cas. Alors, à ce niveau-là, on a un premier clivage Montréal-Reste du Québec très, très apparent. Qu'en est-il du post-matérialisme? C'est un peu comme pour l'échelle gauche-droite, il n'y a pas de différence significative. On voit ici sur le graphique, les gens habitant Laval sont un peu plus matérialistes que les autres Québécois. Je ne m'avancerai pas sur des explications, sur des discussions de l'implication politique de cela. Simplement pour dire que c'est le cas ici de manière descriptive, mais dans des analyses un peu plus poussées, ce clivage-là disparaît. Alors, on ne trouve pas vraiment de signification significative. On ne peut pas vraiment inférer à l'ensemble de la population des Lavallois, ce résultat-là ici. Mais il y a une légère tendance, mais qui n'est pas significative. Finalement, nous avions deux questions par rapport à l'immigration. La première question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrants au Québec? Là-dessus, les Montréalais se distinguent. Ils sont les plus nombreux à s'opposer à l'énoncé, suivis des gens de la ville de Québec. Et ça survit les tests multivariés statistiques. Donc, vraiment, les Montréalais se distinguent par une opposition plus grande à cet énoncé. Même chose, c'est même encore plus fort pour ce qui est de notre deuxième question, où on demandait aux gens de choisir entre deux possibilités, celle que les immigrants s'adaptent et se fondent à la société québécoise, ou maintiennent leurs différences et contribuent de ce fait à la société québécoise. Là-dessus, clairement, les Montréalais se distinguent. Et ils sont nettement plus nombreux à choisir la deuxième option, celle du maintien des différences et d'une contribution à la société de cette manière. Pour faire le résumé de ce premier acte de notre étude, essentiellement, on trouve que les Montréalais sont moins conservateurs au niveau moral que le reste du Québec, plus enclin à vouloir que les immigrants restent différents. Les résidents de la ville de Québec moins d'accord avec l'énoncé selon lequel il y a trop d'immigrants. Ça, c'est la seule vraie distinction pour ce qui est des habitants de la ville de Québec. Au niveau de Laval, comme je disais, il n'y a rien de statistiquement significatif et nous n'observons aucune différence régionale significative au niveau du positionnement gauche-droite et de l'échelle post-matérialiste. Ça, c'est pour les attitudes générales. Maintenant, nous voulions regarder la participation politique, alors le comportement politique des Montréalais versus les autres Québécois. Dans notre enquête, nous pouvions distinguer entre comportement de type conventionnel, comportement de type non conventionnel. Qu'en est-il d'abord pour les comportements conventionnels? Par là, on entend l'intérêt pour la politique en général et la participation électorale, donc aller voter aux élections. Compte tenu du profil attitudinal urbain dont on a parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure, on pourrait s'attendre à ce que peut-être les Montréalais soient moins enclins à participer de manière conventionnelle et donc plus ouverts à la contestation et aux innovations en matière de comportement politique. C'est un petit peu l'attente théorique que nous avions au départ. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a rien trouvé, essentiellement. Au niveau de l'intérêt pour la politique, vous voyez bien ici, il y a des petites variations, mais rien ne résiste à des analyses statistiques multivariées. Alors, il n'y a pas de clivage régional qui ressort clairement au niveau de l'intérêt pour la politique en général. Au niveau du vote, la participation électorale, rien ne ressort non plus. Alors, les Montréalais votent à un même niveau que les autres Québécois. Il y a seulement, encore une fois, les gens de Laval. Cette fois-ci, ça survit aux analyses plus poussées. Mais les Lavallois votent un peu moins que les autres aux élections fédérales. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau de nos indicateurs de comportement politique de type conventionnel. Qu'en est-il de la participation politique non conventionnelle maintenant? Alors là aussi, il y a plusieurs attentes qu'on peut tirer de la littérature. Comme je disais tout à l'heure, une attitude peut-être plus rebelle, plus portée à la contestation. Donc on pourrait s'attendre à ce que peut-être les Montréalais soient plus nombreux adopter un comportement politique non conventionnel. Il y a tous les travaux aussi sur la cité créative, notamment ceux de Daniel Bell, où on dit que la cité favorise le développement d'opinion plus novateur, plus créatif, moins conventionnel. Alors, ce serait l'attente générale qu'on aurait vis-à-vis la participation politique non conventionnelle. Les indicateurs que nous avions dans cette enquête-là se rattachent à la crise étudiante de l'année dernière, le printemps érable. Nous n'avions pas d'autres indicateurs, mais il faut bien se rappeler qu'il y a un an, c'était encore très chaud dans l'actualité. On venait à peine de sortir de cette crise-là. Et on est intéressé à sonder les Québécois sur leur comportement durant le printemps érable. Alors, quelques indicateurs. D'abord, les attitudes des citoyens vis-à-vis les deux enjeux clés de cette crise. D'abord, le projet de loi 78, la loi spéciale imposée par le gouvernement Charest. Est-ce que les gens étaient en faveur ou pas de ce projet de loi? Assez clairement, les Montréalais étaient plus nombreux à s'opposer au projet de loi. Ils étaient plus nombreux. Alors, 63% de Montréalais s'opposaient au projet de loi, selon les données de notre enquête. 56% pour les autres régions du Québec, en moyenne. Le clivage demeure significatif quand on contrôle pour les autres caractéristiques sociodémographiques. Au niveau de la hausse des frais de scolarité à l'université, même chose. Les Montréalais sont plus nombreux à s'être opposés à la hausse, selon nos données. Mais les gens de Laval aussi, à un niveau presque aussi élevé. Alors, ce seraient les deux régions. Il y a peut-être eu un effet de halo autour de Montréal, comme on pourrait dire. C'est ce qu'on observe dans les données. Et sur les deux enjeux, sur les deux questions, on voit que les gens de la ville de Québec qui sont les moins opposés à ces questions-là. Qu'en est-il maintenant au niveau de la participation du comportement politique? Nous avions posé une question aux gens, en fait, plusieurs questions. On leur dit, est-ce que vous avez pris part à des... est-ce que vous avez porté le carré rouge durant le printemps érable? Est-ce que vous avez pris part à des manifestations? Des manifestations du 22 du mois, par exemple, ou des manifestations nocturnes? Ou encore, est-ce que vous avez tapé sur vos casseroles dans la rue le soir? Et donc, ça nous a permis de créer une échelle sur un total de 5 possibilités, 5 types d'activités de protestation durant la crise étudiante. Et ça nous permet de créer une échelle de 0 à 5. Et là-dessus, clairement, les Montréalais se distinguent, sans grande surprise. 36% des Montréalais ont participé à au moins une activité de protestation durant la crise étudiante. Il n'y a que 23% des autres Québécois qui ont participé à au moins une, Et on voit ici sur l'échelle qu'en moyenne, si on fait la moyenne, c'est certain que les chiffres sont biaisés vers le bas parce que la plupart des gens ont soit pas participé ou participé une seule fois. Mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de Montréalais qui ont fait augmenter la moyenne au niveau de Montréal. Alors, bref, pour résumer ce troisième acte, clairement, au niveau du printemps érable, il y a eu davantage de participation politique non conventionnelle, tant au niveau des attitudes vis-à-vis des deux enjeux de la crise étudiante qu'au niveau du comportement politique. Les gens ont participé davantage à Montréal et vous conviendrez avec moi que la participation, particulièrement à Montréal, a quand même été assez novatrice. On a vu des types de participation qu'on n'avait jamais vu au Québec auparavant et il faudrait sans doute remercier les étudiants pour cela. Mais c'est très notable, ça a été montréalais et on l'a tous senti et ça se confirme dans nos données très clairement. Pour ce qui est de la ville de Québec, on voit qu'ils ont eu plus tendance à appuyer le projet de loi de la hausse, mais ne se distinguent pas significativement des autres Québécois pour ce qui est de la participation. Ils ont participé un peu moins, mais ce n'est pas significatif. Les habitants de Laval, pas grand-chose non plus qui ressort de ce côté-là. Alors, clairement, Montréal ressort beaucoup à ce niveau-là. Alors, pour conclure les résultats de notre recherche, pour ce qui est de Montréal, ce qui nous intéresse particulièrement ici dans ce colloque, clairement, ce qui ressort de nos données d'il y a un an, c'est le niveau de conservatisme moral qui est plus bas. On souhaite davantage que les immigrants puissent jouer un rôle de contributeur à la société québécoise, ce qui permet de comprendre un peu mieux les réactions plus négatives vues à Montréal par rapport, par exemple, au projet de charte de valeurs. Et la participation des Montréalais au printemps érable a été plus grande, effectivement, qu'ailleurs au Québec. Alors, ce sont les hypothèses d'un clivage Montréal-Reste du Québec là, qui sont confirmés dans nos données. Il y a des hypothèses qui sont infirmées, par contre. Les Montréalais ne sont pas plus à gauche politiquement que les autres Québécois, ne sont pas plus post-matérialistes non plus. Et ils affichent un degré de participation politique que je qualifierais de conventionnel, qui ne se distingue pas significativement du reste du Québec. Pour conclure, la ville de Québec reste un petit peu une énigme. On parle souvent de la ville de Québec comme une énigme, effectivement. au niveau de la question du taux d'immigration, c'était quand même un petit peu étonnant là, qu'ils aient une opinion presque aussi positive que les Montréalais à ce niveau-là, d'autant plus qu'ils ont assez peu, beaucoup moins de contacts certainement que les Montréalais par rapport à l'immigration. Alors, la théorie du contact ne s'applique pas vraiment à la ville de Québec. Est-ce que c'est un désir de développement économique? Peut-être. On pourrait spéculer là-dessus. On continue de réfléchir là-dessus. L'effet banlieue, il n'y a pas grand-chose qui ressort de nos données par rapport à la région de Laval. Peut-être est-ce que c'est le fait d'avoir utilisé Laval qui explique qu'on n'a pas d'effet de banlieue. Peut-être, c'est possible. On n'avait pas assez de répondants pour regarder toute la couronne nord et sud de Montréal, qui serait en fait la région du 450, qui serait probablement la meilleure mesure, mais ça devient un peu difficile d'aller identifier de manière plus fine dans les données que nous avons. Il y a aussi justement le fait qu'on n'a peut-être pas assez de répondants qui habitent Laval pour qu'on ait des résultats qui ressortent plus clairement. Mais au niveau de Montréal, je pense que c'est assez concluant. Alors, il y a des clivages, il y a des distinctions très claires, mais il y en a d'autres, de manière peut-être un peu étonnante, là, où Montréal ne se distingue pas en tant que région, au niveau des opinions et des comportements de ses habitants. Merci.
Merci, Eric. Il nous reste environ 13 minutes pour des questions.
Merci beaucoup. Deux petites remarques. La première sur l'énigme de Québec. Petite donnée factuelle, les immigrants qui sont à Québec sont forts en grosse proportion des réfugiés. Donc ça vient même, je dirais, rendre votre résultat encore plus énigmatique. La deuxième petite remarque, on vient de terminer une enquête comparative sur des quartiers à Montréal et à Laval. Et une des choses qui nous a frappé, c'est que les gens de Laval refusent de s'identifier comme des banlieusards.
Oui, merci beaucoup pour ces remarques. Alors, les Lavalois ne veulent pas s'identifier comme banlieusards, d'accord. Comme on disait, on a exploré diverses possibilités, mais ce n'était pas très praticable pour comparer à une banlieue, à des habitants d'une banlieue précisément, avec les données que nous avions. Il y avait Laval, mais on est débattu, Eva et moi, sur l'opportunité de faire cette distinction-là. Bon, on l'a fait quand même, mais ça ne donne pas grand-chose. Comme vous avez pu voir. Ça pourrait être une des raisons, effectivement.
Comment vous expliquez cette gauche-droite que Montréal a vu la naissance du FRAP, que Montréal a vu la naissance de l'RCM, que Montréal a élu deux députés pour Québec solidaire, que Montréal a fait un très bon score dans les élections fédérales avec l'NPD. Il me semble qu'il y a quelque chose là qui indique qu'il y a une tendance vers la gauche. Alors, j'aimerais peut-être 1500, votre sondage de 1500 n'est pas suffisamment large pour embrasser tous ces éléments, mais c'est des faits historiques. Je n'invente rien.
Oui, c'est un bon point. Merci beaucoup. Vous avez un petit peu mis le doigt sur le problème, la question de l'identifier de manière plus précise des poches idéologiques dans la population. Je pense que pour ce qui est du clivage gauche-droite, il y a certainement des régions particulières sur l'île de Montréal où c'est sans doute plus fort, plus à gauche. Certains parleraient là, du plateau Mont-Royal et de ses environs, peut-être. C'est fort possible. Élection de deux députés de Québec solidaire, oui. Alors, ce serait bien d'avoir des données plus fines qui permettraient d'aller identifier des zones plus précises sur l'île Montréal même. C'est une possibilité. Nous, ce qu'on regardait, c'est est-ce que les Montréalais, en général, tous ceux qui habitent sur la ville, anglophones, francophones, peu importe leurs autres attributs, est-ce qu'on voit des différences? Et donc, ça, c'en est une qui ne ressortait pas de nos données. Le NPD a très bien fait à l'extérieur de Montréal aussi. Donc, je ne dirais pas que c'était caractéristique de Montréal pour ce qui est du NPD. Ce sont aussi des données de 2012. Alors, reculer encore plus loin dans le passé, effectivement. Peut-être qu'il y aurait d'autres clivages qui ressortiraient.
Deux questions de méthodologie. Vous avez 1500 répondants. Est-ce que vous avez divisé vos répondants? Est-ce que vous avez un nombre égal de répondants dans les quatre régions du Québec que vous avez identifiées?
Non. Comme j'ai dit, pour Laval, on a quelques centaines. Montréal, c'est le quart de l'échantillon environ. Laval, on a peut-être une centaine, je dirais. Non, nous n'avons pas. C'est vraiment un échantillon qui est représentatif pour l'ensemble du Québec. Alors, évidemment, c'est une enquête que nous avons menée à d'autres fins. Ce n'était pas pour étudier les clivages régionaux. Si ça avait été spécifiquement pour ça, j'aurais fait du suréchantillonnage de certaines régions. Ça, c'est quelque chose qui serait possible de faire. C'était une enquête pour étudier les comportements politiques à la grandeur du Québec.
Donc, 1500 personnes divisées en quatre catégories selon leur provenance géographique. Un cas, un échantillon de 100 personnes. Est-ce que je me trompe? Un échantillon de 1000 personnes est nécessaire pour en tirer des conclusions scientifiquement valables?
Pour la grandeur du Québec, oui. Mais faut faire avec les données qu'on a. Hein. Comme je disais, c'est pas une enquête qui a été conçue pour étudier cette question-là dont je parle ce matin. Alors, c'est certain que ce sont des résultats qui sont indicatifs. Cela dit, malgré la faiblesse de l'échantillon au niveau, si on veut faire de la comparaison par région, c'est quand même remarquable que les Montréalais se distinguent au niveau des questions d'immigration. Malgré le fait qu'on n'a pas plus de cas, pas plus d'observations que ça pour l'ensemble du Québec et qu'on n'ait pas plus davantage d'observations pour certaines régions du Québec particulièrement. Donc, je trouve ça quand même remarquable que même dans les tests plus poussés qu'on a fait, Montréal se distingue sur les dimensions dont j'ai parlé. Et ça, c'est en contrôlant pour la langue aussi. Hein. Ça, faut pas oublier. Donc, ça veut dire que prenez deux francophones. Il y en a un qui vit sur l'île de Montréal, un autre qui vit à l'extérieur. Cette personne-là est davantage ouverte à ce que les immigrants, par exemple, maintiennent leur identité plutôt que ce que les immigrants s'adaptent, donc perdent leur identité en quelque sorte. Hein. Donc, ça, c'est deux francophones qui vivent à deux endroits différents. Au Québec, on trouve une différence statistiquement significative entre les deux. Donc, ça aussi, c'est faut garder ça en tête.
Juste une question encore un peu méthodologique pour un néophyte méthodologique. Est-ce qu'on se donne des moyens, disons, des questions de contrôle pour s'assurer que les gens comprennent les questions de la même manière? Il me semble que, intuitivement, garder l'identité pour quelqu'un qui habite à Montréal, garder l'identité pour quelqu'un qui voit cette question-là de l'extérieur, ça peut sembler référer à des ensembles de phénomènes différents. Donc, je sais que ça demanderait énormément de fine grain, là, dans le, mais je me demandais s'il y avait des indicateurs qui nous permettaient de savoir si les gens comprenaient toutes ces questions à peu près de la même manière.
Il faudrait faire une étude un peu plus qualitative, sans doute. Cela dit, on a fait des pré-tests dans la semaine précédant la collecte de données, puis il ne semblait pas y avoir de problème au niveau de la compréhension des questions. Mais oui, effectivement, il y a peut-être lieu de faire quelque chose de plus raffiné.
Étant grande experte de la Ville de Québec, parce que je suis née, mais je ne connais pas plus que ça, et il me semble qu'une possibilité de réponse sur l'énigme, c'est l'effet 400 ans, l'anniversaire de 400 ans de Québec, qui est un peu comme Expo 67 ici à Montréal. On sent l'effet dans la ville, mais je n'ai aucune recherche là-dessus. C'était une possibilité de piste.
Et ce serait quel genre d'effet? Un effet d'ouverture, OK. Intéressant.
Je pense qu'il faudrait faire une recherche plus en profondeur sur le sujet parce que votre recherche n'a pas répondu, en fait, j'ai pas pu confirmer ou non mes craintes. Je pense que Montréal est vraiment différent. Il vote différent à chaque élection que le reste du Québec. Et je trouvais absolument aucune donnée qui me dirait d'où vient cette différence. Même la dernière élection, ils ont voté au PLQ, même s'ils s'opposaient vraiment à la loi 78. Il faudrait vraiment essayer d'expliquer d'où vient cette différence d'opinion.
Alors, cette enquête-là faisait partie d'un projet plus large pour étudier le vote, le choix de vote des Québécois. Donc, moi, j'en ai pas parlé dans ce que j'ai présenté aujourd'hui. On voulait se concentrer sur les opinions. Mais on a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, « Les Québécois aux urnes », c'est un collectif. On regarde la question du choix de vote sous une approche pluridisciplinaire, pas un petit peu comme on fait ici avec le CRIEM. Le Parti libéral a maintenu ses appuis sur l'île de Montréal. Ça remonte à un clivage linguistique. Essentiellement, oui.
So if there are no more questions, I'd like to thank you very much.
Merci.